Louer et remercier soit le Seigneur. Si c'était vraiment ainsi, dans la pratique, que cela pouvait être ainsi manifesté. Comme il conduit, c'est ainsi que je veux suivre. Et cela s'accorde avec la parole de notre Seigneur. Prends ta croix sur toi, prends ta croix et suis-moi. La position d'enfant de Dieu inclut que nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu et ne regardons plus à nos propres voies et ne les suivons plus non plus et marchons vraiment sur le chemin de Dieu. Et si cela, ce que le frère Rousse mentionnait avec une phrase, si cela pouvait devenir aussi vrai, vrai, que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de le chanter, mais que cela soit manifesté visiblement, afin que les fils et les filles de Dieu, selon Romains 8, avant qu'il puisse être manifesté, il faut qu'il soit manifesté que en eux l'obéissance divine telle qu'elle était sur terre dans le Fils, telle qu'elle a été manifestée sur terre dans le Fils de Dieu, que cette obéissance divine ait aussi été révélée dans les enfants de Dieu. Et je crois que le temps est arrivé si nous, si nous admettons, comme il est écrit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, alors son esprit vient à notre aide, vient nous aider pour que nos limites et notre faiblesse soient englouties par le pouvoir de Dieu et la victoire de Dieu, que Dieu conserve la victoire. Je crois que plus nous avançons et plus nous aspirons à rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et pas seulement ça, mais d'avoir des expériences dont nous pourrions en rendre témoignage, des expériences que Dieu, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie, a pu opérer et produire. Un homme croyant, un croyant qui vraiment n'a pas expérimenté Dieu, il lui manque la confirmation divine qu'il a été agréé et qu'il est devenu un fils et qu'elle est devenue une fille de Dieu. Il a été inséré dans la grande famille de Dieu. Il y en a qui se disputent sur la divinité sans, par révélation, comprendre le dessein éternel de Dieu qu'il l'a conçu et qu'il exécute selon le développement des temps. Et il place un verset biblique en face de l'autre et n'en finissent pas. Nous avons reconnu, par la grâce de Dieu reconnu, que Dieu dans l'éternité voulait avoir autour de lui des fils et des filles qui ne meurent plus, qui ne peuvent plus mourir, qui ne peuvent plus être malades ou qui ne peuvent plus avoir une douleur ou bien une souffrance. C'est pour cette raison que le Dieu Tout-Puissant lui-même, qui, selon sa nature, est esprit. Il a dû, en forme humaine, dans la chair, se manifester sur cette terre en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. J'utilise cette expression, un démembrement divin, une répartition divine a eu lieu dans le domaine céleste et terrestre, dans le Père, dans le Fils, et ainsi en Christ, le Fils de Dieu, réconcilier l'humanité avec lui-même et ainsi faire un nouveau commencement de la création divine ou bien introduire la nouvelle création. La parole de Dieu n'a pas été adressée aux théologiens qui l'interprètent, qui tordent le sens, mais la parole de Dieu a été écrite, adressée au peuple de Dieu, et il est écrit dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 8, « Il y aura alors un chemin tracé, on l'appellera le chemin élevé des rachetés, et aucun impie ni marchera. » Amen. Le chemin de Dieu est réservé seulement à son peuple. Quand je viens ici au service divin, alors je me donne l'intention de donner un exposé du voyage, des témoignages, et quand j'arrive ici, j'oublie tout. Et du plus profond de mon cœur, une source jaillit. Selon la parole de l'Écriture, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui jaillit dans la vie éternelle. Pas un savoir dans la tête, pas l'intelligence, pas des preuves humaines, ou bien des démonstrations, ou bien des répartitions humaines, mais la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Moïse disait dans Exode 33, je crois, oui. Si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies. Laisse-moi connaître ton plan, tes voies, pour que je puisse en cela reconnaître que j'ai vraiment trouvé grâce devant toi. Si aujourd'hui on parle avec les hommes sur la grâce de Dieu, oui, alors tous ont reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et aucun d'eux sait ce que c'est que la grâce en fait. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et nous sommes ici devant la face de Dieu, rassemblés, et nous nous attendons à expérimenter la grâce et être pénétrés de la grâce et de l'amour de Dieu jusqu'au plus profond de notre âme. Et encore plus que ça, par la grâce de Dieu, nous avons été déterminés à être apporté en accord avec la parole de Dieu. Et je pense que cela est notre désir à tous. Là où ce n'est si ça, où, là où ce désir ne serait pas encore présent, que nous puissions nous dire l'un à l'autre, c'est encore le temps de la grâce. Et celui qui a commencé son œuvre, il achèvera, il continuera à agir, à opérer en nous ces choses, et jusqu'à qu'il achèvera son œuvre qu'il a commencé. Quand est-ce qu'il le fera en fait? Quand est-ce qu'il achèvera son œuvre? Qui le sait? Jusqu'au jour de son retour. Amen. Jusqu'au jour de son retour. Et aussi concernant cela, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela, de son avènement. Paul, n'est-ce pas, écrit dans l'Épître aux Corinthiens, et ça, il n'y a pas longtemps, nous l'avons lu ici, et je ressens dans mon propre corps, plus, toujours plus le temps dure et plus je sens que notre corps terrestre s'use et qu'il perd sa vigueur, mais dans l'esprit, nous sommes fortifiés, encouragés et consolés. Peut-être que nous devrions aujourd'hui lire aujourd'hui cette écriture, qui sait où cette parole est écrite. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, est consolé et réconforté, et nous pouvons, dans la foi, par la grâce de Dieu, aller de l'avant. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Non. Même si notre homme extérieur s'use, notre homme intérieur reçoit jour après jour une force nouvelle. Une parole très merveilleuse. Les hommes vivent sur terre fortifiés par la puissance de Dieu, encouragés dans les différentes déceptions, dans les détresses, dans les persécutions, en sachant que Dieu, à travers tout cela, en eux, a scellé sa parole par le Saint-Esprit. Et je pense là à plusieurs hommes de Dieu qui étaient aussi que des hommes et qui, devant certains grands devoirs, n'étaient pas capables de les exécuter. Je pense à Jonas, par exemple, il a pris un bateau. Il est allé dans une autre direction parce que il se voyait pas capable, n'est-ce pas, d'accomplir pour Dieu ce grand devoir. Et nous le voyons aussi avec les autres hommes de Dieu. Moïse disait, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler avec d'autres mots, en d'autres mots. Prends quelqu'un d'autre qui est plus apte à le faire. Et la plupart ont de Paul eu l'impression que il était puissant en parole et en acte. Et qu'est-ce que les Corinthiens lui ont reproché? Lui ont fait qu'on reproche que son apparence est faible et il ne sait même pas parler. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'il n'avait pas de langage? Si. Mais il ne parlait pas d'en haut, dans l'orgueil, en critiquant avec arrogance, non. Il parlait comme un père en Christ aux enfants nouveau-nés à qui, n'est-ce pas? Donc à ceux qui ont été ajoutés au Seigneur, et dit, vous avez beaucoup de maîtres, mais peu de pères. Et en Christ, par l'Évangile, je suis devenu votre Père. Et je le dis aujourd'hui, sûrement pas à cause de moi, parce que moi, comme le moindre, le plus petit, cette grâce m'a été accordée dans le monde entier, oui, des centaines de milliers de personnes, montrer le chemin du Seigneur à des centaines de milliers de personnes. Mais en relation avec cela, il m'a été donné la chose suivante. Une mère, vous savez, qui vit les douleurs de l'enfantement. Une femme qui, dans ce monde, a fait naître la vie. Elle a une relation à la vie qu'elle a portée sous son cœur. Et Dieu disait, si une femme oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublierai pas, car vous êtes gravé dans ma main. Il a une église, le Seigneur, il a une église qu'il avait dans son cœur comme un concept, comme un dessein avant même la fondation du monde à accomplir. Et si un homme a été appelé par Dieu à participer à l'édifice de l'Église, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, que Dieu a établi les différents services dans l'Église pour son édification. S'il vous plaît, je vous demande d'observer ces deux mots très exactement. Notre Seigneur dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église. » Et ensuite, il établit des services et des ministères, des fonctions dans son Église des gens qu'il a déterminés à prendre part à l'édification de l'Église, à son affermissement et à ce qu'elle soit fondée. Comme Paul l'écrit aux Corinthiens, car nous sommes ouvriers avec Dieu et avec Jésus-Christ, et nous nous glorifierons pas d'avoir fait quelque chose, si ce n'est que Dieu l'ait fait lui-même par nous. Amen. Pas l'évangéliste, pas le prophète, ou bien alors le grand homme de Dieu, mais le grand Dieu qui par sa parole et par son esprit agit dans les siens. Dans les derniers jours, j'ai pu penser à cela et cela de tout mon cœur, que nous tous, n'est-ce pas, qui appartenons à l'Église de Dieu, à l'Église des premiers-nés, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous pouvons le mettre à la disposition du service de Dieu. Pas nous devons, mais nous pouvons. Nous pouvons le mettre à disposition du service de Dieu, au service de Dieu. Et cela avec joie. Le frère Kier, mercredi nous a lu. N'administrez pas l'Église de Dieu par contrainte, par intérêt, non comme des dominateurs, mais comme des modèles, et faites paître le troupeau qui vous a été confié jusqu'à ce que le souverain berger vienne donner à chacun la récompense qui lui est due. Ça, c'était Et c'est le souhait d'un homme qui a été déterminé par Dieu, appelé par Dieu, à travailler avec lui, à travailler avec Dieu. Et de tels hommes diront comme Pierre, comme les apôtres, comme ils devaient rendre compte devant le souverain conseil et devant le grand conseil. Et qu'est-ce que Pierre a dit dans Actes des Apôtres 4, ou bien chapitre 3 et 4, pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si ce serait nous qui aurions fait quelque chose? Cet homme se tient debout en bonne santé, guéri au milieu de vous par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous regardez à nous comme si nous aurions fait quelque chose de particulier? Cet homme est guéri par la puissance de Dieu. Pas par nous, c'est pas nous. C'est de telles personnes que le Seigneur cherche. Regardez dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Là, notre Seigneur a dit, beaucoup viendront en ce jour et diront, n'avons-nous pas fait ceci et cela? Prophétiser, chasser les mauvais esprits, faire de grandes choses. Le mot « nous avons », « avons-nous », « n'avons-nous pas », cela n'a pas sa place ici. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur et donne au Seigneur toute la gloire, que c'est lui le Seigneur et lui seul qui est capable de faire ce qu'il s'est proposé de faire et que les hommes ne regardent pas aux hommes. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse et je crois aussi après à Josué? Vous n'avez pas besoin de combattre. Restez calme et tranquille et regardez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Je combattrai pour vous. Et subitement, il y avait quelqu'un qui s'est tenu devant Josué avec une épée nue et il l'a demandé, est-ce que tu es des nôtres ou bien est-ce que tu appartiens aux ennemis? Et la réponse merveilleuse a été, est venue de la bouche de cet ange de l'Éternel. Je suis le chef, le commandant de l'armée de l'Éternel. Je suis venu pour vous accorder la victoire. Qui de nous s'attend aujourd'hui encore dans, appelons cela de son nom, parfois dans sa situation déprimée, sans espoir, sans issue, n'est-ce pas? Qui s'attend encore à l'intervention divine de Dieu, au secours de Dieu? Je crois que nous tous, nous nous attendons à cela. Nous comptons sur cela et nous faisons bien de le faire. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et peut-être que dans notre vieille vie, ou bien dans la vie, dans la vie des autres, nous avons eu affaire à des choses où nous avons pensé, oh, cela dépasse toute mesure. On ne peut plus continuer. Cela nous dépasse. Ma vie est sans sens. Je ne peux plus. Et le Seigneur dit, écoute mon fils, écoute ma fille. Quand tu ne peux plus, tu peux compter sur mon aide. Invoque-moi au sein de la détresse et je te sauverai, je t'exaucerai et tu me loueras. Nous voulons en cet endroit ne pas seulement avoir la forme d'un service divin qui a l'apparence de la piété. Mais nous voulons nous attendre à ce que la puissance de Dieu soit manifestée au milieu de ceux, parmi ceux qui croient et qui font confiance au Seigneur. Nous nous attendons à cela, nous aspirons à cela. Nous, nous aspirons à cela et celui qui a donné les promesses ne peut pas lui-même les renier. Il doit, en fait, le mot « doit » ne devrait pas être utilisé pour Dieu ici, non, mais seulement utilisé pour les hommes. Mais Dieu est fidèle à ses paroles. Il s'est engagé envers sa parole. Il ne peut pas la reprendre. Il ne peut pas la... Il est fidèle à ses paroles. Il ne peut pas la reprendre. Il ne peut pas l'annuler. C'est pour cette raison que nous avons un fondement inébranlable. Un royaume inébranlable. Des promesses inébranlables. Des prophéties inébranlables. Et Dieu se tient sur sa parole de A à Z. Et là, les rois, comme il est écrit dans le psaume 2 et au commencement des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Là, ils peuvent se liguer. Et le psalmiste a dit au psaume 2, versets 1 et 3, 1 et 2, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les nations? Dieu ne se laisse pas retenir par cela. Il a des hommes qui traversent toutes ces choses par sa grâce et qui mettent leur espérance sur le Seigneur et qui savent qu'il fera toutes choses bien. D'autres appels téléphoniques sont aussi venus, nous ont atteints. Alors que le frère Schmidt était dans le bureau, j'avais une lettre qui venait d'arriver du Burundi et le frère me disait, frère Franck, viens le plus rapidement possible, tant que tu peux. Partout, on reçoit des appels dans le monde entier. Et si je ne me trompe pas, je ne pourrai pas aller de pays en pays jusqu'à la fin. Mais comme je le voudrais si bien, si Dieu me permettait d'atteindre l'humanité par un satellite. Vraiment, par un satellite. Atteindre toute l'humanité. Et je l'appelle, comme on le dit parmi le peuple, sans changement, sans détour, sans déviation, une action concentrée, divine, sans changement, sans détour, sans déviation. Mais une annonce claire et ouverte de la parole de Dieu présentant le programme de Dieu. Moi, de ma part, je suis très reconnaissant au Seigneur pour le privilège, n'est-ce pas, de demeurer sobre et clair, de ne pas porter un jugement sur des personnes, sur des hommes, mais pas non plus nous laisser retenir par qui que ce soit, mais d'aller de l'avant. Et cela, l'histoire de l'Église n'a peut-être pas été claire pour certaines personnes, hein? Et non plus l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il y en a qui, à cause de ça, ne comprennent pas ces choses parce qu'ils ont atteint exactement 40 stations, le peuple d'Israël, exactement 40 stations au cours de ces 40 années et s'y sont même arrêtés. Mais ils ne restèrent pas à la troisième, cinquième ou cinquantième station. Ils ne sont pas restés là. Dès que la colonne de feu s'élevait, les Israélites se levaient et suivaient le Seigneur qui allait devant le camp. Le chemin de Dieu est fait pour y marcher et non pour rester debout et s'arrêter. Et maintenant, puisque nous avons l'achèvement de toutes choses sous nos yeux, la perfection, il est important justement d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter. Et d'un autre côté, nous regardons, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, s'il n'y avait pas eu de commencement du temps de la Réformation, et même avant la Réformation, Wycliffe et Huss et tous ces hommes qui, avant la Réformation, n'est-ce pas, ont apporté la parole telle qu'elle avait été accordée. Et ils l'ont mis en lumière et déjà ils ont préparé les premières, ils ont fait les premières préparations avant la percée même. S'il n'y avait pas eu cette préparation-là de ces hommes de Dieu, il n'y aurait pas eu la réformation elle-même, il n'y aurait pas eu la percée de la réformation. Il n'y aurait pas pu avoir de progression, car c'était le nouveau commencement que Dieu avait fait. Mais aussi là, nous ne devons pas, nous arrêter à cela, nous devons aller de l'avant. Nous sentons que lorsque tout, nous sentons que, n'est-ce pas, après la réformation, lorsque tout s'est établi après la réforme et que l'on a mis en place des choses après la première organisation, l'Église alors mourut, qui une fois avait été pénétrée par vraiment la vie divine, avait été visitée par un réveil. Et même encore, je crois que c'était hier, il y a quelqu'un, une dame qui a presque 100 ans, elle me disait, frère Franck, je suis désespéré. Je peux me rappeler alors que ma tante, m'écrivait, alors que dans les années passées, les parents m'écrivaient, c'était des versets bibliques dans la lettre seulement des Écritures, des versets bibliques, un après l'autre. Elle était... Et ma tante était plus âgée que moi et elle m'exhortait avec la parole de Dieu. Et elle disait, il n'y avait aucune lettre, il n'existait pas de lettre dans laquelle il n'y avait pas de verset biblique l'un après l'autre, qui avait été comme ça employé pour écrire. Et alors, elle est passée à l'autre côté et une grande déception. Et elle dit, j'ai parlé avec un parent proche de moi. Et pas loin, qui habite pas loin d'Hanovre, en Allemagne, et imagine-toi. Alors que je parlais de la foi et de la parole de Dieu, alors que je commençais à parler de la foi et de la parole de Dieu, alors elle a commencé à crier et à dire, « Oh, arrête avec cela, c'est une histoire de conte, ce livre. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans cette période éclairée avec cela ?» Et la femme qui elle-même ne semble pas entièrement plaire au Seigneur. Il y a des gens de toutes sortes. Peut-être que elle est même peut-être ici ce soir, que Dieu la bénisse. J'ai seulement des pensées positives. Mais quand parfois, vous savez, on donne une instruction terrestre à quelqu'un, si on pouvait, pour pouvoir les aider, pour les aider, une instruction terrestre, pour les aider spirituellement, pour les détacher de cette terre, pour qu'ils puissent être rapprochés du ciel, alors que cela aussi ait servi à quelque chose. Mais en tous les cas, elle a commencé à pleurer amèrement. Et elle disait, frère Franck, je ne peux pas le supporter. Quand je pense au temps passé, au temps d'autrefois, et à la crainte de Dieu qui régnait dans notre maison, à la Bible, qui était sur la table et qui était lu. Et maintenant, je dois écouter que ce seraient des histoires de contes. Je ne peux pas supporter cela. Mais il y a une chose que je te dis, et c'est ce qu'elle m'a dit, aucun homme ne pourra m'éloigner de la foi. Je reste attaché à la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps qui malheureusement change en mal. Et ce n'est pas un mystère que le doute, l'incrédulité à la parole de Dieu, à la naissance de Marie, vierge, étant vierge, est remis en question de la chair. Cette incrédulité est remise en question de la chair et est semée parmi le peuple de Dieu. Et maintenant, c'est le fruit qui ressort de cette incrédulité semée. Mais revenons pour parler concernant le chemin de Dieu. Car Dieu nous laisse savoir qu'il fait que aller de l'avant avec son peuple. Il ne s'arrête pas. Et là, je pense au Proverbe 4. Le sentier du Seigneur resplendit toujours plus jusqu'au milieu du jour, dont l'éclat va croissant, n'est-ce pas? C'est ainsi. Son chemin resplendit toujours plus, ce chemin est toujours plus éclairé. Et revenons à cette comparaison du temps de la Réformation. Il y avait la lumière, il y avait la clarté, mais c'est allé seulement jusqu'à la cheville. Ce n'était pas encore jusqu'au genou, jusqu'au rein, ou bien alors à tel point qu'on aurait pu nager dans le fleuve de la révélation de Dieu, non. C'était encore des traditions ici et des credos là. Et au milieu de tout cela, Dieu s'est frayé un chemin puissant. Et l'un des hommes de Dieu disait, de ce temps, je ne peux rien faire d'autre que de m'en tenir à la parole, que Dieu m'aide. Il y a un autre homme de Dieu qui disait, si ta parole n'est plus valable, sur quoi se fondera ma foi? Je ne me préoccupe pas de 1000 mondes, je me préoccupe seulement de mettre ta parole en pratique, car le ciel et la terre passeront. Mais cela n'a pas duré. Le feu du réveil s'est éteint, lentement mais sûrement. Une nouvelle organisation a apparu. Mais Dieu a fait de nouveau un commencement. Pour aller plus profondément encore, pour révéler de nouvelles vérités bibliques et les placer sur le chandelier et les apporter à lumière. J'ai lu la biographie de John Wesley et j'ai lu plusieurs de ses livres, particulièrement les cantiques, celui qui chante les cantiques de Charles Wesley. Charles Wesley, il doit être saisi intérieurement. L'esprit l'a conduit si profondément dans la parole. Et qu'est-ce que nous constatons? Que après ce réveil puissant, auquel aussi Wilfield et beaucoup d'autres avaient pris part, jusqu'à Moody et Sinkey et tous ces hommes finés, et etc., Dieu a toujours eu des hommes. Et cela continuait toujours. Ça ne s'arrêtait pas, ça continuait toujours. Ma question est la suivante aujourd'hui. Est-ce que nous vivons dans les jours de la Réformation? Alors, si c'est le cas, laissons-nous croire ce qu'ils ont cru et faire ce qu'ils faisaient. Et faire comme si Dieu, depuis lors, n'aurait rien fait de nouveau. Je ne le dis pas par méchanceté. Je le dis d'un cœur avec de la douleur. Beaucoup de croyants spirituellement se sont arrêtés quelque part spirituellement et n'ont plus progressé, sont plus allés de l'avant. Mais Dieu veut que nous puissions marcher jusqu'à la fin et persévérer et ne pas nous arrêter quelque part et suivre son action et en prendre part jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Et alors, nous voyons de nouvelles progressions. Et là, quand je pense à cela aussi, à l'un de ce grand réformateur, il y en avait deux en Suisse, comme il y en avait aussi particulièrement deux ici en Allemagne, donc Luther et Schwingfeld, et en Suisse, c'était Calvin et Zwingli. Et ensuite, ce grand homme de Dieu de l'Espagne servait tout ce qui vint à l'époque à Genève et qui a exposé la divinité de Jésus-Christ. Et il avait la clarté, comme nous l'avons aujourd'hui, exactement comme nous l'avons aujourd'hui à son époque déjà. Et subitement, ils ont dit, cet homme doit mourir. Et Calvin a approuvé par signature sa condamnation à mort comme réformateur, lui comme réformateur, au lieu d'aller de l'avant, au lieu d'avancer spirituellement, de se recueillir, de sonder les Écritures pour voir si c'est exact. Les gens ont porté un jugement de leur position religieuse et ils se sont tenus loin du jugement de Dieu. Notre Seigneur a dit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et celui qui veut faire sa volonté reconnaîtra que cet enseignement vient de Dieu. Amen. Où est le mystère? Celui qui est prêt à faire la volonté de Dieu, celui qui veut faire la volonté de Dieu, il restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé cœur, posons-nous la question aujourd'hui les uns les autres. Demandons à Dieu et chacun se demande à soi-même à quel point nous avons abandonné nos voies, nos pensées, nos façons de voir, nos programmes, à quel point et nos concepts et nos programmes et nous nous sommes vraiment abandonnés à Dieu, livrés à Dieu. Et ça, je vous l'ai déjà raconté. Celui qui a vécu les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, il a vu comment est-ce que des hommes se sont livrés, comme avec les deux mains levées, se sont livrés. Coppel n'était plus là. Il n'avait plus le droit d'être là parce que lors de la livraison, mais la Lameda était encore à droite et à gauche, elle était encore là. Je pense encore à une vue qui m'a beaucoup touché le cœur. Un colonel avec son étoile, avec ses étoiles sur les épaules, n'est-ce pas? Vient et se rend. Pourquoi? Parce qu'un pays avait été vaincu et qu'il appartenait à ce pays. Mais bien-aimés, quand est-ce que nous allons nous rendre à Dieu et nous laisser vaincre par Dieu? Lever les mains et dire, Seigneur, me voici, me voici, me voici. J'abandonne tout, mes pensées, mes façons de voir, mes interprétations, tout. Maintenant, je mets sur ma tête le casque du salut et je me réveille de tout l'armure de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Et qu'est-ce que Paul écrit aux Corinthiens? Celui qui combat, qui fasse attention à combattre correctement, sinon il ne sera pas couronné. Selon les règles, il doit combattre. Il ne s'agit pas seulement de combattre. Et d'autres traductions disent, on doit combattre selon l'ordre, selon les règles du jeu. Toute exécution et exercice de coupe du monde ont les mêmes dispositions internationales et lignes juridiques. L'un ne peut pas faire, par exemple, tomber l'autre, comme on dit, tacler l'autre, en espérant passer devant, il sera sifflé et devra quitter le terrain. Il sera sifflé et devra quitter le terrain, au vrai sens du mot. Soyons des personnes qui s'entendent sur la valeur d'une équipe qui se passe la balle pour ensemble avoir la victoire. Il y a suffisamment de tâches, de dons, de ministères et de devoirs qui peuvent être accomplis dans l'Église du Dieu vivant. Et nous disons simplement, Seigneur, me voici. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, pas ma volonté, mais que ce que tu veux, que comme tu le veux, que ta volonté soit faite. Oui, je soumets ma volonté dans la tienne. Et alors, c'est vrai que cela est plus rapidement à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais Dieu, qui en nous a mis le vouloir, il nous accordera la force et il achèvera son œuvre en nous qu'il a commencé. Revenons au psaume 92, donc 92, verset 2. Il est beau de louer l'Éternel, de remercier l'Éternel. Cela aussi n'est pas facile pour moi parfois. Et de nouveau, je dois penser à une sœur âgée. J'ai dû de nouveau apprendre une nouvelle leçon d'elle qui souriait de tout son visage et disait, frère Frank, je vais maintenant te raconter une expérience particulière que j'ai faite. Alors, elle a dit, alors, j'ai supplié Dieu et il ne m'a pas répondu. Alors, j'ai d'abord voulu me plaindre et lui demander pourquoi il ne me répond pas. Et vous connaissez les conflits intérieurs qui peuvent exister parfois. Et subitement, elle m'a dit, frère Franck, est-ce que tu sais quand est-ce que la paix de Dieu a pénétré mon cœur et quand est-ce que Dieu a changé ma situation? C'est quand j'ai pu dire sincèrement du fond du cœur, mon Dieu, je te remercie de ne pas m'avoir exaucé, de ne pas avoir exaucé ma prière. Est-ce que vous pouvez vous représenter cela, comprendre cela? Je te remercie de ce que tu ne m'as pas exaucé. Tu n'as pas exaucé ma prière. Qu'est-ce que Dieu voulait? Et après, sa prière a été exaucée en fait. Mais qu'est-ce que Dieu voulait avant? Dieu voulait apprendre à cette sœur et il voulait lui donner une leçon pour toute sa vie. Que c'est que pour ne pas qu'elle puisse dire, j'ai jeûné et j'ai prié et j'ai. Dieu ne veut pas que l'homme se glorifie et dise, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, Dieu veut des hommes auxquels peut s'appliquer que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et parfois, une tristesse vient sur nous parce que Dieu ne nous a pas exaucés. Et alors, il voit comment est-ce que cela chauffe en nous. Oui, que ça déborde même, et parfois, selon la position, la situation et l'état de la chose. Mais Dieu veut faire de nous des gens qui peuvent dire, oui, Père, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Je ne suis qu'un homme. Moi, je juge et je vois de ma position. Mais toi, tu es souverain, tu es tout puissant et tu sais toutes choses. Tu fais toutes choses bien aussi dans ma vie. Simplement se laisser insérer et conduire par Dieu dans son plan, dans son dessein et dans sa volonté pour notre vie. Et déjà cela arrive. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, de chanter ton nom, ô très haut. J'ai pensé à cette parole de l'évangile de Jean, le chapitre, je l'ai lu, le chapitre 17 de Jean, et je ne peux pas me rappeler d'avoir encore lu une si longue prière que celle-ci de Jean 17. Mais ici, c'est notre Seigneur qui parle, qui dit, et il dit, écoutez bien le verset 4, Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié ici sur la terre et j'ai achevé ton œuvre que tu m'as donné à accomplir. Encore aujourd'hui, nous attendons l'accomplissement, l'achèvement de l'œuvre de la rédemption de Dieu. Notre Seigneur a laissé une œuvre de la rédemption accomplie. Maintenant, il attend dans la gloire à la droite de sa majesté divine et attend jusqu'à que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Et ensuite, alors le verset 6, il est écrit, Jean 17, « J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Moïse disait au Seigneur, « Comment est-ce que tu t'appelles? Quel est ton nom? Dis-moi. Quel est ton nom? Pour que je puisse dire au peuple d'Israël qui m'a envoyé. » Alors le Seigneur a dit, dis-leur, je suis le je suis. Et alors vous pouvez le lire vous-même, probablement dans Exode chapitre 6, le verset 3. Cela, ce sera ainsi. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est ici. Oui, c'est ici. C'est même souligné chez moi. Je lis à partir du verset 2. Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas révélé à eux sous mon nom de l'Éternel Dieu. Dieu, pour toute chose, avait un temps, un plan. Il fait les choses quand elles, quand le temps est arrivé. Et c'est peut-être quelque chose que je vous demande à tous. Nous venons de différentes églises et églises libres, de différents credos, n'est-ce pas, qui sont allés jusqu'à dans notre corps, dans notre chair. Ne regardons pas en arrière, regardons pas d'où nous sommes sortis, regardons devant nous et allons de l'avant. Allons avec Dieu, marchons avec Dieu. Si j'avais marché, si j'avais vécu du temps de la réformation, j'aurais suivi là, le réveil, suivi et préparé à ce que Dieu faisait à l'époque. Si j'avais vécu du temps de Wesley, si j'avais été sur terre du temps de Wesley, j'aurais suivi, j'aurais pris part. Maudit, Finney et tous ces hommes, Furchen et Bonia, etc. J'aurais suivi, j'aurais pris part. Et bien, je vous demande, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Ou bien encore, mieux dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions rester en arrière et nous rester à un réveil spirituel en arrière, ou bien alors que nous puissions spirituellement suivre et marcher, aller de l'avant, ne pas nous arrêter. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose aux Écritures. Mais nous voyons comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit de clarté en clarté et de vérité en vérité. Et si Paul écrit aux Éphésiens et il dit ce qui était resté caché au fils des hommes depuis des siècles passés est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. Et ensuite il écrit, en cela vous pouvez voir ma familiarité, ma liaison avec le mystère de Christ, avec le mystère de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Pas un vain discours de paroles vides. Pas quelque chose mélangé à la théologie. Mais simplement et seulement suivre les traces divines. Suivre les traces divines depuis le commencement jusqu'à la fin. Sans s'arrêter. Et alors, atteindre ainsi avec Dieu. Le but, le psaume 92, nous voulons louer notre Dieu et lui donner l'honneur pour tout et de tout notre cœur. Le louer pour ce qu'il a fait en nous. De faire connaître au matin, le verset 3 du psaume 92, de faire connaître au matin ta grâce et ta fidélité pendant les nuits. Oh, les psaumes sont quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de situation de vie qui ne prendrait pas en compte. Parfois même dans un seul psaume, et chaque psaume, parfois même dans un seul psaume, on trouve toutes sortes de choses qui s'appliquent à notre vie. Qui s'appliquent à notre vie. À notre vie. Oh, que Dieu puisse au temps convenable nous accorder la parole adéquate par sa grâce. Et aussi, il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, je ferme toujours la Bible et puis je la laisse tomber sur la table et puis je lis. Celui qui peut le faire, qu'il le fasse. Moi, je ne le peux pas. Peut-être que je l'ai fait 2-3 fois dans toute ma vie, au plus profond de la détresse intérieure, pour recevoir une réponse de Dieu. Mais la Bible n'est pas un livre d'oracle. La Bible est la sainte parole de Dieu. Que ce soit que j'ouvre le psaume 33, ou bien psaume 79, ou bien 79, ça, je peux moi-même ouvrir ce psaume. J'ai pas besoin de laisser tomber la Bible sur la table pour que ça s'ouvre seul à un endroit. Non. Laisser tomber les choses comme ça. Non. Restons sobres. Mais si quelqu'un est conduit comme ça, nous voulons pas lui ôter ça et le juger. Si ça, c'est sa conduite personnelle et son chemin avec Dieu, alors nous voulons le laisser suivre ce chemin et que Dieu et nous le bénissons même au nom du Seigneur. Cela est possible, que Dieu conduit l'un comme ça et l'autre d'une autre manière. Ce qui est important, c'est que, et avec cela je viens à la fin, j'arrive à la fin, il est important que personne ne parle de sa conduite personnelle avec Dieu à quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre. La personne, de toute manière, ne le comprendra pas. Ne parlez. Que votre vie soit une marche avec Dieu. Ne parlez que des choses qui ne pourront pas vous nuire par la réponse que les autres vous donneront. Parce qu'ils ne comprendront pas de toute manière. Donc, faisons attention et Dieu, le Seigneur, nous bénira tous. Que son nom soit élevé et exalté éternellement. Amen. Créateur du ciel et de la terre, toi qui seul possède l'éternité et l'immortalité et qui habite dans une lumière dont personne n'a accès, tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ, ton Fils seul engendré par toi. Et tu as fait en sorte que ceux qui étaient éloignés soient rapprochés et ceux qui étaient perdus soient sauvés. Tu nous as réconciliés avec toi-même. Bien-aimé Seigneur, la fin de toutes choses est venue sur nous. Et la fin avec ton Église doit aussi venir comme était le commencement, comme était son commencement. Bien-aimé Seigneur, mon cœur ce soir est touché pour te remettre tous entre tes mains, tous ceux qui veulent être sauvés, qu'ils puissent avec leur propre vie arrêter de vivre, qu'ils puissent arrêter de vivre et que plus rien ne reste d'eux et que toi, tu puisses gouverner sur le trône de leur cœur. Je prie pour moi-même, pour mes chemins terrestres et mes décisions. Je prie aussi pour l'Église et pour son développement et son parcours spirituel. Seigneur Dieu, ôte tout ce qui dérange, tout ce qui ne vient pas de toi et tout ce qui retient pour que nous puissions devenir un seul esprit avec toi et que comme déjà Salomon dans les Proverbes disait, attire-moi et je viendrai après toi et je te suivrai. Ton nom est devenu pour nous une bonne odeur, comme une crème, une pommade qu'on met sur nous, un trésor qui touche de nouveau, nous enthousiasme, nous touche. Là où pour les autres, c'est des énigmes et ils n'ont pas la réponse, tu l'as révélé aux enfants. Père, c'est ainsi, comme tu l'as dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du monde. Ils t'appartiennent. Alléluia. Oh, nous te remercions de la profondeur de notre cœur, du fond de notre cœur, de ce que tu nous as rendu dignes par le sang de l'agneau et par ton esprit d'entrer dans ta parole, d'avoir accès à ta parole et au mystère caché. Je te remercie et je te prie pour tous ceux qui ont reçu des talents, que ce soit pour chanter, que ce soit pour jouer des instruments. Seigneur, que la musique, que l'harmonie, que tout ce que tu veux avoir parmi ton peuple, dans ta église, puisse, que toutes ces choses puissent revenir, comme au commencement, qu'il y ait une telle atmosphère ici, dans laquelle tu peux bien te sentir et tu peux bénir ton peuple. Toutes les requêtes, toutes les supplications, les prières, nous te les apportons aussi telles que nous prions que pour l'Est et l'Ouest de l'Europe, Seigneur. Nous n'avons aucun ennemi, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est l'ennemi de nos âmes. Et cet ennemi, tu l'as déjà vaincu. Béni tout le peuple russe avec leur diversité de peuples, de communautés. Appelle à sortir et qu'ils puissent devenir ta propriété. Ouvre toutes les portes et tous les portails. Et je te remercie aussi pour le chef de Budapest d'avoir déclaré que le droit fondamental d'un citoyen est de voyager où et quand il le souhaite. Seigneur, tu as des chemins et des manières et des moyens. Le temps est là. Tu ouvres les portes de fer et tu ouvres les portails de fer, du rideau de fer et du rideau de bambou. Et nous te laissons le rideau de Rome entre tes mains. Mon Seigneur, nous voici, bénis avec nous ton peuple dans l'adoration de toute la terre, sur toute la terre. À toi, le Dieu vivant, à toi soit la louange et l'honneur dans toute éternité. Amen.